Un tempérament de feu, un humour décapant, une incroyable pugnacité, c'est Irène Frachon, la princesse Leia du Mediator, comme l'a baptisé le docteur Dupagne. Demain sort sur les écrans La fille de Brest d'Emmanuel Berkoff, un film qui raconte l'histoire singulière de cette lanceuse d'alerte et résistante de l'industrie pharmaceutique. Au cœur de ce film, le combat d'Irène Frachon contre le Mediator, ce médicament aujourd'hui retiré du marché et qui est à l'origine de plus de 1500 morts. C'est l'actrice danoise de la série Borgen, Citze Babeck-Knudsen, qui joue la fille de Brest. Et c'est la vraie Irène Frachon qui est notre invitée dans quelques minutes avec vos questions et vos messages qui arrivent déjà sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une belle première en matière de médecine régénératrice.
Oui, une équipe de recherche franco-américaine vient de réussir à faire pousser du tissu intestinal humain en laboratoire. Une prouesse et une promesse d'avenir que l'on commente avec le biologiste Maxime Mahé.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy qui s'est demandé cette semaine pourquoi les incompétents se trouvaient souvent doués. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Ça commence bien. C'est Madame Berco, Emmanuel Berco, qui a réalisé ce film La fille de Brest. Bonjour Irène Frachon.
Bonjour Mathieu.
Film qui sort donc demain sur les écrans, qui s'affiche absolument partout, sur les murs et sur les colonnes. Maurice, l'histoire de votre combat contre les laboratoires Servier, donc maintenant dans les salles de cinéma. Est-ce que vous avez le sentiment finalement que votre propre histoire ne vous appartient plus tout à fait ?
Il y a très longtemps que je pense que cette histoire me dépasse complètement et que sans jeu de mots, j'en suis le médiateur. Et aujourd'hui, en effet, la réalité, comme vous le savez, dépasse sans arrêt la fiction. Mais là, la fiction qu'on va voir, elle est magnifique.
Ouais,
elle est nécessaire.
Demain. Elle sort demain donc sur les écrans. C'est un film France Inter. Vous êtes l'invité de l'émission. On en parle avec vous. Beaucoup de messages déjà sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À tout de suite. Des chercheurs français et américains qui sont parvenus à faire croître du tissu intestinal humain fonctionnel en laboratoire. Une première rendue possible par l'utilisation des cellules souches pluripotentes et qui soulève à la fois des questions et de nombreuses promesses pour l'avenir de la médecine. Maxime Mahé, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct depuis l'Ohio aux États-Unis. Vous êtes instructeur de recherche à l'hôpital pour enfants de Cincinnati et premier auteur de ces travaux qui ont été publiés hier donc dans la revue Nature Medicine. À quoi ressemblent ces organoïdes intestinaux, comme vous les appelez, que vous avez donc réussi à obtenir ?
Alors, ils sont tout petits, de petite taille tout d'abord, puisqu'on les génère dans des boîtes en plastique. Mmh. Donc, ils ont une taille de 1 à 2 mm, mais on a la possibilité de les transplanter dans un organisme, et ils vont grossir et atteindre une taille atteignant 2 à 3 cm.
À part la forme en forme de sphère qui n'est pas un tube comme notre intestin, qu'est-ce qui différencie ces organoïdes d'un intestin véritable ?
Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, il manque de nombreuses composantes. Nous avons un tissu épithélial avec un muscle qui va permettre la contraction. On va avoir aussi des neurones, mais il manque des cellules immunitaires et aussi un microbiome et des aliments qu'on va voir passer le long du tube digestif qui ne sont pas encore présents.
Alors, racontez-nous un peu comment on fait, quelle est la recette pour obtenir des petites bulles d'intestin comme ça dans des boîtes de pétri ?
Oui, il y a une vraie prouesse technologique.
Oui,
quand même,
c'est une prouesse.
Ouais. Alors, la recette, elle est... Si simple que ça, au final on utilise des cocktails de molécules, de facteurs de croissance qui vont permettre de diriger et de donner une direction à ces cellules souches pluripotentes. Et au fur et à mesure du temps, on va reproduire dans cette boîte en plastique, en ajoutant ces facteurs au cours du temps, on va reproduire le développement de l'intestin comme il se passe dans l'embryon. Et on va pouvoir générer de cette façon ce mini-intestin dans cette boîte de culture.
Maxime, et c'est quoi exactement une cellule souche pluripotente ? Quelle est sa nature exacte ?
Alors, sa nature, la définition propre de la cellule souche pluripotente, c'est qu'elle a le pouvoir de totipotence, elle peut donner tous les types cellulaires du corps humain. Et potentiellement, cette cellule souche, en fait, serait capable de donner plus de 200 et quelques types cellulaires que nous avons dans notre organisme.
Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas obtenir des tailles de boules un peu plus grosses ? Qu'est-ce qui vous empêche de faire grandir ces intestins à l'infini ?
Alors, pour l'instant, la limitation, je pense, est inhérente au modèle. Tout d'abord, au modèle de culture que nous avons dans le laboratoire. Les milieux que nous utilisons sont très loin de ce que peut produire un organisme à taille humaine. Et d'autre manière, on utilise des modèles animaux de petite taille qui aussi ont un côté limitant et qui probablement limitent cette croissance.
Donc votre modèle, là, en l'occurrence, c'est la souris, c'est ça?
Exactement.
Ah, c'est un tissu humain que vous avez greffé sur des souris, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Ouais. On utilise la souris comme un bioréacteur et ce qui va permettre justement à ce petit tissu humain de grossir.
Donc ces souris, elles n'avaient pas de système immunitaire du tout quand vous avez fait cette greffe, hein.
Alors, effectivement, oui. Donc ces souris sont immunodéprimées, elles n'ont pas de cellules immunitaires, puisque si on transplante un tissu humain, on va avoir un rejet comme on peut l'avoir lors d'une transplantation chez l'être humain. Donc on a été obligé d'utiliser ce modèle pour éviter tout rejet de greffe.
Quelles sont les applications de ces nouveaux tissus en médecine ou en recherche?
Alors, la première, elle est bien sûr en recherche fondamentale, puisque ce modèle va nous permettre de mieux comprendre les mécanismes physiologiques dans un tissu intestinal humain et aussi développer ça sur la compréhension des maladies digestives, des maladies motrices de l'intestin et autres maladies. À long terme, ça peut constituer un très bon moyen de faire de la médecine personnalisée. On rappelle, on utilise des cellules souches. Et ces cellules souches pluripotentes peuvent être issues d'un patient et on peut reproduire en culture un tissu d'un patient spécifique et on peut avoir une approche personnalisée, du moins médicale personnalisée. On va pouvoir tester des drogues sur ces petits mini-intestins personnalisés, si je puis dire.
Est-ce qu'à terme, on pourrait créer des intestins véritables de toutes pièces ou pas?
Alors, à long terme, c'est bien sûr c'est une idée qui est envisageable. Bien sûr, puisque on peut générer cette cellule souche pluripotente d'un patient, on peut imaginer pouvoir développer des applications en laboratoire et transférer ce petit mini-intestin, le transplanter chez ce même patient pour après le transplanter dans l'intestin même.
On n'y est pas encore, hein, évidemment, là. On y est même très très loin, mais bon, c'est la promesse en tout cas de cette recherche.
Concernant ces cellules souches pluripotentes qui sont à l'origine de ces tissus, elles sont encore controversées. Est-ce que c'est un point qui pourrait bloquer pour d'éventuels tests cliniques greffés chez l'humain?
Mais, je pense que oui, nous sommes encore loin de la greffe humaine, du moins pour le côté intestinal. Nous sommes encore aux prémices de cette technique. On a encore besoin de bien étudier le modèle, de le développer. Donc, à long terme, c'est envisageable. Je pense qu'il faudra encore passer sur d'autres modèles peut-être plus gros, des modèles d'animaux qui pourront bien établir et consolider cette preuve que nous sommes capables de transplanter ces cellules souches pluripotentes chez l'homme.
Est-ce que vous avez suivi les souris assez longtemps pour voir comment vieillissait ce tissu greffé sur l'intestin?
Bien sûr. Alors, nous n'avons pas publié ces données-là, mais nous avons conservé ces transplants pour plusieurs années, au moins plus d'un an. Mmh. Et après, nous avons fait des tests de tumorigénécité pour voir s'il y avait éventuellement des cellules pluripotentes résiduelles ou des cellules qui devenaient cancérigènes. Mmh. Et nous n'avons pas. Les souris n'ont pas développé de cancer. Après, c'est un an. En plus, dans la mesure où ces souris sont immunodéprimées, on aurait pu voir plus facilement le développement tumoral. Et dans ce cas-là, nous n'avons rien vu. Donc, ce qui est plutôt encourageant, et plutôt prometteur pour l'avenir.
Merci beaucoup Maxime Mahé pour vos explications depuis donc les États-Unis et pour cette première en tout cas prometteuse, et on essaiera de suivre ça donc sur le long cours, hein, pour voir jusqu'où on peut aboutir. Merci beaucoup à vous et Axel, on se retrouve demain.
Exactement, à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une peinture thermosensible pour créer de l'électricité à partir de la chaleur. Voilà une nouvelle invention proposée par des ingénieurs coréens et qui permet de récolter de l'électricité sur des surfaces exposées à des températures supérieures à 50 degrés. Utilisable sur les immeubles, les voitures ou les machineries industrielles, cette peinture souple au tellurure de bismuth pourrait permettre de convertir directement en électricité toutes les pertes de chaleur importantes. Sur la piste des couleurs des dinosaures, un très vieux fossile d'oiseau découvert en Chine datant d'il y a 120 millions d'années a permis la mise en évidence de mélanosomes dans ses plumes fossilisées. Longtemps confondues avec des restes de microbes, ces structures moléculaires rondes sont les machineries cellulaires de base qui permettent la pigmentation de la peau et des plumes des oiseaux. Il ne reste plus qu'à déterminer déterminer quel type de pigment était fabriqué par ces structures pour pouvoir enfin donner de la couleur à ces très vieux animaux. Et puis pour terminer, de très belles images que nous vous invitons à découvrir, celle de la cristallisation des métaux à travers de magnifiques timelapses. Cette vidéo mise en ligne par le jeune chercheur italien Emanuele Fornasier représente des heures et des heures de travail. Passionné de photographie, il propose dans ce film 18 exemples de cristallisation métallique filmés dans son laboratoire. Des solutions ioniques sont parcourues d'un courant électrique, ce qui crée de magnifiques dépôts brillants de toutes les couleurs et de toutes les formes. La poésie de cette chimie est à retrouver dès maintenant sur la page Facebook de La Tête au Carré. Elle est la fille de Brest et c'est Irène Frachon, l'invitée de l'émission, dans un instant. Are we ready? Two Door Cinema Club.
On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans.
Pour arroser les grands médias.
Je suis médecin, moi.
Pam 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 girl.
Ça va être Hiroshima.
Ah bah, c'est pas mon moment de te dégonfler.
Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis.
J'ai besoin de renforts, de vrais pros.
Des centaines de milliers de personnes ont été exposées
Mais ça fait 30 ans qu'il existe Médoc, réveillez-vous les gars.
Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine.
Pensez vraiment qu'ils vont faire ça pour des gens comme moi?
Oui.
La guerre aux méchants labos, c'est ça? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible.
Si la recherche est pour au service des malades, alors pourquoi faire ce métier?
Pas de panique.
Avoir une grande gueule, tu crois que ça suffit? Alors maintenant, tu vas prendre ta bite et ton couteau, madame Inès Frachon, et on va voir comment tu te démerdes.
J'arrête, c'est fini. J'ai pas les épaules. Je n'en peux plus.
Tu reviendras jamais complètement si t'as pas été au bout.
J'ai peur.
Y a pas de vrai combat sans peur. Tous les vrais résistants ont peur. Qu'est-ce que tu crois?
Ben moi, je vous pose la question à laquelle votre livre répond jamais. Combien de morts?
Nous avons un résultat surprenant. Posez-vous d'abord la question. Et si c'était vrai?
Voilà la bande-annonce de La Fille de Brest, Emmanuel Berco, donc, hein, qui signe ce film demain sur les écrans. C'est un film France Inter qui raconte votre guerre contre le médiateur Irène Frachon. Je voulais y réagir pendant qu'on écoutait la bande-annonce. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous, parce que vous avez beaucoup entendu évidemment cette bande-annonce, vous avez beaucoup vu le film aussi à l'occasion d'avant-première. Il y a toujours quelque chose, hein, qui se passe visiblement pour vous là.
Bah, ça réveille à chaque fois des choses extrêmement fortes. C'est une histoire qui m'habite encore, bien sûr. D'autant plus que, comme vous le savez, elle n'est pas terminée.
Ouais.
Je ne connais pas l'épilogue.
Mais justement, c'est une des questions que je voulais vous poser parce qu'on l'entend dans l'extrait à l'instant. Vous considérez donc n'être pas au bout du combat du médiateur encore. Il y a beaucoup de choses à faire.
Beaucoup de choses. L'affaire du médiateur, c'est d'abord des milliers de victimes qui ont tout à coup compris que le drame qu'elles vivaient, médical qu'elles vivaient, était lié à un empoisonnement. Et bien évidemment, ça, ce qui fait basculer une vie aussi, c'est de comprendre qu'on a été délibérément exposé à un poison. C'est absolument impensable et ça a été un choc énorme. Et ensuite, bien sûr, il y a la démarche tout à fait légitime de reconnaissance, d'indemnisation, une démarche pénale aussi pour juger d'un crime. Et tout ceci est en route depuis 6 ans. Et c'est une deuxième peine pour une victime que j'accompagne depuis des années et qui est lancinante et qui est affreuse.
Ouais, malgré donc la fatigue, malgré l'épuisement dont vous avez beaucoup parlé d'ailleurs hein, ces derniers temps, donc vous continuez. Il n'y a pas une lassitude, franchement, chez vous, autour de ce combat quand
Alors,
même.
Il n'y a pas de lassitude possible parce que les appels au secours des victimes qui se succèdent sont juste impossibles. On ne peut pas fermer le poste, si je puis me permettre. Par contre, ce qui est lassant, mais ce qui est au-delà même de la lassitude, c'est le comportement insensé des laboratoires Servier qui sont encore aujourd'hui dans un déni qui dépasse l'imagination et l'entendement. Toutes les demandes indemnitaires sont contestées. Vous m'entendez bien, Mathieu ? Toutes.
Systématiquement, non ?
Systématiquement. Mmh. Et sont combattues jusque par des cabinets d'avocats gigantesques qui travaillent temps plein pour contester tout ligne à ligne, jusqu'à la transaction amiable où il y a même eu des arnaques telles que la ministre Marisol Touraine a dû sortir un décret que j'appelle le décret anti-arnaque. Donc il y a, si vous voulez, un espèce de gangstérisme qui se poursuit chez des gens qui pour l'instant arrivent à faire reculer l'échéance d'un procès pénal et qui chez moi suscite effectivement.
Ouais. Vous parlez de mafia, vous, hein, vous êtes
moi,
très clair. Pour
mafia,
vous, Sergi est une mafia.
Je suis très clair et qui tient tête à la justice, qui tient tête aux institutions, au gouvernement, mais qui tient surtout tête à leurs propres victimes. Ah, et ouais. Ça, c'est odieux.
Il y a combien de demandes là, de dossiers d'indemnisation? 6 000 à peu près, c'est ça?
Alors, il y a à peu près, on est au-delà de 9 000 demandes indemnitaires, sachant que dans ces demandes, si vous voulez, qui n'ont pas été filtrées, beaucoup de dossiers chez des patients qui n'avaient même pas de pathologie particulière, mais qui avait été exposé à ce poison et qui pouvait raisonnablement penser que le fait d'avoir bouloté un poison pendant des années, ça suscite de l'inquiétude, ce qu'on appelle le préjudice d'anxiété. Et puis, les gens ne savaient pas très bien ce que provoquait le médiateur. Donc, il y a beaucoup de dossiers aussi qui correspondent à des maladies qui sont en réalité sans lien. Par exemple, avoir fait un infarctus, ça n'est pas lié au médiateur. Donc, au total, sur ces 9 ou 10 000 dossiers, environ 35% correspondent à des pathologies qu'on peut rattacher à la prise de médiator et avec une indemnisation qui dépend bien sûr de l'ampleur des préjudices.
C'est quoi l'avenir de Servier pour vous, Irène Frachon, là, dans les années, dans les décennies qui viennent? Est-ce que ce laboratoire pharmaceutique a été gravement touché par ce scandale ou pas? Finalement, est-ce qu'il va s'en remettre très très bien?
Oui, malgré, malheureusement, et je le déplore partout, le soutien encore absolument indigne d'une partie de la communauté médicale vis-à-vis de ce laboratoire criminel. Servier a... Alors, l'avenir en France, pour Servier, ça passe essentiellement par ses génériques. Il essaye de se refaire, si je puis dire, avec Biogarant et avec d'ailleurs des publicités.
Donc c'est la nouvelle marque de Servier.
C'est la nouvelle marque de Servier, Biogarant, sur des génériques, puisqu'en fait, Servier ne sait pas faire de bons médicaments. Et ces mauvais médicaments, il va les vendre à l'étranger. 98% ou plus de son chiffre d'affaires, maintenant, ça se passe à l'étranger, notamment dans des pays comme la Russie, comme le Brésil. Voilà.
Il faut s'intéresser d'ailleurs aux campagnes de publicité aussi de Biogarant aujourd'hui. Hein. Les slogans résonnent de façon tout à fait particulière quand on connaît l'affaire du médiator, hein, quand même.
Les slogans sont là encore d'un cynisme qui dépasse l'entendement de la part de ce laboratoire, c'est-à-dire la confiance, c'est de prendre le médicament les yeux fermés, c'est votre santé nous est précieuse. Vous imaginez comme ça résonne aux oreilles de ces personnes qui sont à vie lourdement handicapées sur le plan cardiaque. C'est terrible.
Il y a beaucoup de questions pour vous, Irène Frachon. Je vous les transmets. Celle de Fabrice, par exemple, qui nous dit le problème du médiator, est-ce qu'il n'amène pas d'abord à se poser la question des déviances possibles dues au financement privé des tests cliniques nécessaires pour l'obtention d'une AMM, d'une autorisation de mise sur le marché?
Alors ça pose le problème, en effet, que c'est bien l'industrie pharmaceutique privée qui effectue tous les essais cliniques avant mise sur le marché. Et ça suscite beaucoup de mobilisation des chercheurs au niveau international pour obtenir la transparence sur ce qu'on appelle les données sources, c'est-à-dire que les industriels financent leurs essais, mais il faut que des chercheurs indépendants puissent aller rechercher les données sources sur lesquelles l'industriel va faire ses statistiques pour dire oui, c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs façons aussi de tourner des statistiques et de les valoriser.
Ce jour où vous comprenez les effets délétères du médiator, justement, ce médicament, on rappelle, hein, destiné d'abord aux diabétiques en surpoids, puis ensuite qui a été largement prescrit comme coupe-faim, j'imagine que ce moment, vous en souvenez parfaitement. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Est-ce que d'abord, vous avez pu anticiper ce qui allait se passer, la difficulté du combat et l'inégalité des rapports entre le laboratoire Servier et vous, pneumologue à Brest?
C'est assez vertigineux comme impression parce que, en effet, j'ai commencé à enquêter, mais avec des indices faibles, début 2007, et il m'a fallu 2 ans d'enquête avant d'avoir, en une soirée, la certitude absolue que non seulement le médiator tuait, mais qu'en plus il s'agissait d'un drame sanitaire d'une échelle absolument exceptionnelle.
Donc 2007, c'est le moment où vous alertez les autorités pour la première fois?
Dès que j'ai vu un patient début 2007, j'ai envoyé une fiche de pharmacovigilance, puisque c'est vraiment l'alerte médico-légale du médecin. Et alors maintenant, il faut d'ailleurs savoir que tout le monde peut faire des déclarations de pharmacovigilance, y compris les consommateurs. Hein. Ça ne passe plus forcément par le canal des médecins. Mais donc, j'ai fait d'emblée une première fiche de pharmacovigilance qui a été quasi lettre morte. Et puis, j'ai poursuivi pendant 2 ans. Et début 2009, là, j'ai eu la certitude, après avoir fait littéralement sorti les cadavres du placard, c'est-à-dire exhumé les dossiers des archives, et en les ouvrant, j'ai découvert plusieurs cas d'atteinte des valves cardiaques qui étaient toutes stéréotypées et à chaque fois cette malheureuse patiente avait consommé du médiator avant, c'était bingo à chaque fois si je puis dire, et là effectivement ça m'a complètement écrasée et je me suis dit au secours, et là on s'est engagé, et c'est au moment où commence le film La fille de Brest, une véritable course contre la montre et une course contre la mort, parce que chaque jour qui passait, 400 000 personnes avalaient un poison mortel.
C'était affolant. Ça, c'est 2 années, hein, finalement, entre la première alerte de votre part et ensuite le retrait du médicament.
Non, 3 ans. Donc 2007-2008, enquête. Début 2009, là, on monte à l'assaut de la SAPS. C'est vraiment comme ça qu'il faut en parler. Et finalement, au 6e assaut, on va réussir à obtenir le retrait de ce médicament.
Ouais. On rappelle que vous êtes pneumologue, quand même. Hein.
Alors, pneumologue...
les cardiologues auraient dû le voir avant vous, quand même, non?
Ben non, c'est justement... Alors ça, c'est une affaire de science et de recherche. Les cardiologues, parce que le Mediator a été commercialisé depuis 76, plus de 30 ans. Donc, comment se fait-il qu'il n'ait pas vu des dizaines, des centaines de milliers de valvulopathies? La réponse est très simple, c'est qu'ils avaient des explications, des soi-disant explications à ces valvulopathies qui, dans les années 60, étaient assez correctes. C'était les conséquences de rhumatisme articulaire aigu. Et en réalité, cette cause a disparu au fil des ans et ils ont continué à attribuer ces valvulopathies à ces causes-là sans être capables de faire une sorte de conversion et de rechercher d'autres causes. Et moi, pneumologue, je n'avais pas ces préjugés scientifiques. Donc j'ai pu regarder ça avec un autre œil.
Didier nous dit que le Mediator n'était pas en stock dans la plupart des pharmacies hospitalières. Les prescriptions émanaient de médecins de ville pour répondre justement à des demandes de personnes obèses. Il existe une structure officielle de pharmacovigilance, vous en parliez, qui aurait dû être alertée et réagir. Irène Frachon, vous l'avez fait, justement, hein, puisque c'est le départ de votre combat. Pourquoi ça n'a pas été fait ailleurs, au fond?
Alors, le Mediator a été prescrit partout, en réalité, aussi dans les hôpitaux. Nous, on en a des traces. Il y avait vraiment des discours de Servier et une promotion qui alliait tellement de mensonges que ça, le Mediator pouvait faire l'affaire pour n'importe qui. N'importe quel médecin pouvait croire que le Mediator répondait juste à ce qu'il lui fallait pour son patient. C'est incroyable, cette manipulation, et qui avait lieu absolument partout. Et bien sûr, les médecins généralistes en première ligne, mais aussi des endocrinologues, des gynécologues, tout le monde en a prescrit. Peut-être pas trop les cardiologues, et c'est eux qui ont ramassé les complications. Tout ça pour dire que, quand même, jusqu'au retrait du Mediator, Servier a continué à nier l'existence de ces problèmes à des prescripteurs qui interrogeaient Servier. Moi, j'ai un courrier d'une endocrinologue qui écrit à Servier en mai 2009 en disant « Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit problème, petite alerte de sécurité ?» Ils avaient déjà pris toutes les observations brestoises et de multiples alertes. Servier répond « Il n'y a aucun problème. » Donc, sur ce coup-là, même si les prescripteurs ne savaient pas toujours de quoi il s'agissait, c'est bien servi.
On va y revenir avec vous, parce que dès 1997, la revue Prescrire aussi avait dit certaines choses autour du Mediator. Voilà. Et pourquoi elle ne l'a pas entendu?
L'information est valable, indépendante.
Et c'est la question du journalisme de santé aussi. On va en discuter avec vous, puis on va parler du film quand même, puisqu'il sort demain sur les écrans, signé Emmanuel Berco, c'est la fille de Brest.
Avalé par des yeux immenses, si c'était les miens, nager dans tes yeux, lave élégance. Voilà que moi, je baisse les miens, longer tes jambes immenses. Tout ça m'est comme alors, si de rien. Et ta démarche, quelle élégance. Si l'on marche jusqu'à demain, on serait peut-être au bout de la France. Marseille, en fait j'en sais rien. Ça paraît possible en apparence. Possible, si tu veux bien. Yeux immenses. avalé par tes yeux immenses. On parlait comme si c'était les miens, noyé dans ses yeux leur élégance. Si l'on regardait un peu plus loin, oui mon chapeau c'est une évidence, n'a rien à voir avec le tien. Mais notre amour, notre exigence.
Et c'est Louise Attaque sur France Inter.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
C'est bien grâce à vous, on peut parler cinéma aussi dans La tête au carré. Irène Frachon avec la sortie de La fille de Brest, donc demain, ce film d'Emmanuel Berco, avec Sitze Babette Knudsen, est-ce que je prononce bien son nom ?
Sûrement,
Sitze. Voilà cette comédienne danoise que les téléspectateurs de Borgen connaissent bien. Et puis Benoît Magimel aussi, qui joue Antoine Le Bihan. Alors, qui est Antoine Le Bihan ?
C'est un personnage composite.
Oui, c'est ça. Hein.
Il y a un vrai professeur d'université avec qui j'ai travaillé à Brest sur des études épidémiologiques qu'exigeait la FSAPS, l'agence du médicament, pour retirer le médicament. Et ça a été quelque chose, l'implication de ce professeur a été formidable, Grégoire Le Gall. Mais Emmanuel Berco y a mis de la fiction pour qu'il y ait des tensions entre les personnages qui n'ont pas existé avec
lui. C'était pas le cas dans la réalité.
Ça a été le cas avec d'autres médecins, mais on peut pas multiplier les personnages. Et puis voilà. Donc ces tensions-là en font un personnage de fiction.
Ouais, c'est donc Irène Frachon sur l'écran avec un accent danois. Alors faut dire que ça déroute un petit peu les toutes premières minutes. Et puis après on embarque complètement avec le personnage. Ça aussi c'est vraiment l'effet du cinéma qui est assez étonnant parce qu'on a tellement l'habitude de vous identifier évidemment à toute cette affaire. Là tout d'un coup avoir un accent danois.
Enfin, moi, je trouve ça génial, parce que la grande erreur aurait été l'espèce de biopic qui cherche absolument à m'imiter, ça n'a aucun sens, d'autant plus que c'est bien plus le combat que je porte, entre guillemets, que voilà, ma propre... voilà. Et donc, ça donne une espèce de distance fictionnelle, et donc ça permet, je pense que c'est la porte ouverte pour aller vers le cinéma.
Oui, mais vous étiez très heureux, je crois, d'ailleurs,
que, moi, j'étais enchantée que ce soit cette comédienne. Si parce que c'est une femme à laquelle, curieusement, je m'étais un petit peu identifiée, en toute modestie.
En regardant la série Borgen.
Regardant la série Borgen.
C'est vrai.
On m'avait prêté cette série en 2013, on l'avait regardée, on avait trouvé d'abord la série super, mais surtout, cette femme qui est tiraillée entre les devoirs de sa vie privée et de sa vie publique, on avait envie de lui donner des conseils à l'écran, et il y avait donc déjà une certaine forme de complicité.
Et toute votre famille a approuvé, finalement.
Ah, tout le monde était ravi.
Vous étiez curieux, j'imagine, de savoir qui allait, évidemment, vous incarner
oui,
au cinéma.
Alors, vous savez, question cinéma, moi, j'ai donné les clés de la maison à Emmanuel Berco, à la maison et cours, c'est leur job, moi, j'y connais rien, mais quand elles m'ont dit, fin 2014, et en plus elle était inquiète de ma réaction, qu'elle pensait cette actrice danoise, on a sauté au plafond.
Ouais. Il y a à la fois
formidable cadeau.
Effectivement,
c'est
votre combat, et puis aussi votre environnement, parce qu'on apprend aussi à vous connaître dans ce film, d'abord on découvre votre personnage, l'énergie que vous avez naturellement, l'humour aussi qui est le vôtre, ce qu'on voit pas forcément à la télévision, quand vous parlez de Servier en tout cas, c'est pas sur le sourire.
Ça me fait pas rigoler de parler de Servier, donc je suis vraiment la mère fouettarde sur les écrans,
c'est ça.
Et quelque part, je pense que beaucoup vont être surpris de voir que derrière, il y a un personnage, mes propres enfants me le disent, un peu clownesque et assez fantasque. Ouais.
Et justement, cet environnement familial, est-ce qu'il n'est pas essentiel au fond dans cette pugnacité dont je parlais tout à l'heure, dans cette force que vous avez déployée ? Parce qu'on voit que votre famille, elle est hyper présente, hyper tolérante aussi, très patiente, votre mari aussi en particulier. C'est un bel hommage, moi je trouve aussi à votre... C'est aussi un film sur la famille au fond, je trouve, La fille de Brest.
Oui, j'en suis très heureuse. En fait, ce film donne les clés de ce type d'engagement citoyen et pourquoi il peut aller aussi loin. C'est parce que j'étais à Brest. C'est aussi le combat d'une ville. Ça a été d'abord le combat d'un hôpital, puis d'une ville, puis d'une région. C'est quelque chose de très très fort qui s'est passé avec les Bretons. Moi, je suis bretonne d'adoption.
Ouais. Contre l'arrogance des autorités.
Contre l'arrogance des autorités. Et puis en famille, en effet, ce soutien indéfectible m'a infiniment touchée parce que ça aurait pu être plus compliqué. Hein, on prenait des risques.
Ouais. Mais c'est toujours le cas. Votre famille vous soutient toujours.
Oui, vous voyez.
Il y a une de vos filles qui est là en régie.
Une de mes filles est là en régie et ils sont tous au taquet, comme on dit. Ouais.
Bon, ils ont aimé le film parce qu'ils sont assez critiques avec vous aussi.
Ils vous
épargnent pas grand-chose.
Tout le temps. Ouais. Et ils ont beaucoup aimé le film et je pense même qu'ils ont adopté leur maman de cinéma.
Ouais.
Je n'en suis pas jalouse, j'en suis très heureuse.
Ouais. Il y a ce collier qui vous personnifie beaucoup, Irène Frachon, que vous avez encore aujourd'hui autour du cou et qu'on retrouve évidemment sur.
Que si je l'ai apporté, la tenue à porter, là encore c'était.
C'est le collier aussi de l'affaire, on pourrait dire, finalement.
Oui, c'est une croix huguenote, ça s'appelle, et ça fait référence à mon éducation et aussi à ma foi protestante.
Oui.
Là encore, c'est un soutien personnel. J'espère, bien sûr, que les choses, en tant que citoyenne, le devoir était d'intervenir auprès de ses patients, mais après on trouve ses forces souvent dans les racines de son éducation et de son environnement immédiat.
C'est un collier qui ne vous quitte pas du tout ?
Il ne me quitte plus depuis 2009. Mon mari, catholique d'ailleurs, me l'avait offert. Et lorsque l'affaire a éclaté, je me suis dit qu'il fallait que je le garde parce qu'il offrait aussi une clé de compréhension et que beaucoup allaient peut-être se demander mais d'où elle vient, cette fille de Brest ? Et elle vient voilà, d'un socle qui inclut aussi une éducation qui sensibilise au sort du prochain, pour dire les choses très simplement.
Est-ce que la foi, ça a pu vous aider aussi à tenir dans ces moments qu'on voit d'ailleurs dans le film, ces moments de peur ? Parce qu'il y en a aussi, hein, s'attaquer à un laboratoire que vous traitez de mafia, c'est aussi être en danger, prendre des risques énormes.
Oui, c'est bien sûr, dans ces moments-là, je ne m'attendais pas à ce que j'aille chercher aussi loin en moi ce qui pouvait m'aider à dépasser une vraie trouille, parce que je suis une trouillarde. Et cette foi protestante, c'était important. Parce que vous voyez, ça vous permet aussi de vous sentir conforté, si je puis dire, quoi qu'il arrive. Et puis aussi, j'ai pensé à deux grands-pères qui avaient aussi fait leur devoir pendant la guerre, l'un en allant récupérer de l'eau lourde à la barbe et au nez des Allemands, l'autre en négociant la reddition de poches de l'Atlantique, les villes de La Rochelle et Rochefort. Ce sont des récits qui ont bercé mon enfance avec des grands-pères que j'adorais et j'ai pensé à eux.
Mais 2010, donc vous publiez Mediator 150 mg, combien de morts ? Le film est inspiré directement du livre et on va écouter justement l'extrait où là vous contactez vous-même les médias pour essayer de faire parler du bouquin.
Oui.
Jackie Hénin.
Jackie Hénin.
H-M-A-C-C-E-N-T-N-I-N. J-U-V-I-N.
Jackie Michel.
Eva Jolie. J-O-L-Y.
Oui, bonjour, c'est encore Irène Frachon, la pneumologue qui vous a fait parvenir mon livre sur le Mediator. Je suis désolée de vous bombarder avec tous ces messages, mais j'aimerais vraiment vous rencontrer.
Bonjour, monsieur. Irène Frachon, ici, on n'arrive pas à se joindre. Je suis vraiment désolée parce que j'étais en consulte.
Je pensais que ce serait un sujet qui pourrait intéresser votre journal.
J'ai pas tout dit dans mon livre. Merci de me rappeler. Jour et nuit, j'espère que vous l'avez bien reçu et que peut-être vous l'avez même lu pour vous expliquer toute cette histoire de vive voix. C'est un scandale d'État.
Voilà, mai 2010. Ce livre qui arrive dans toutes les rédactions, il est arrivé également à l'époque à La Tête au Carré. On voit ce bouquin arriver avec une couverture franchement pas réjouissante du tout. Édition Dialogue, quasiment personne.
Non, t'es vachement fier, hein, notre couverture.
Quasiment personne n'en a entendu parler. Donc cet éditeur de Brest, cette librairie d'ailleurs.
Très tenace, solide comme le roc. Ouais.
Donc les rédactions ressortent ce bouquin. Il y a une journaliste qui réagit. Son personnage dans le film, c'est Anne Jouan, journaliste santé au Figaro.
Alors c'est un tout petit peu différent, c'est-à-dire que l'avocat nous avait, avant la publication du livre, l'avocat de l'éditeur et de moi-même, nous avait dit, pour vous protéger, votre meilleure défense aussi sera d'aller dans les médias. Même pour moi, bien sûr, il y avait le scandale à révéler, il y avait aussi à me protéger, et donc il y a eu une attachée de presse, et il y a eu déjà, à la sortie du livre, un certain retentissement avec Isabelle Giordano, magazine de la santé, le magazine Gradia, le Nouvel Observateur avec Anne Crignon qui avait dans une page absolument époustouflante tout résumé. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi et ça a fait pchit, comme on dit. Il y a eu la censure qui s'est abattue. Et donc là, après, c'est ce qu'on raconte, cette course haletante pour que enfin ça ne fasse pas pchit, avec l'aide notamment du député Gérard Bapt et bien sûr Anne Jouan qui rentre dans la danse
pour
et qui
connaître
comprend
le nombre de
que
morts.
Cette affaire est énorme.
En fait, c'est le chiffre.
Rien lâcher. Ouais. C'est incroyable la pugnacité de cette journaliste pour comprendre que la clé, enfin, ce qui est, c'était d'arriver à chiffrer ce nombre de morts.
Et chapeau, parce qu'elle travaille pour Le Figaro. Journal qui appartient à Étienne Moujotte, dont le propre frère travaille chez Servier.
Oui, je pense qu'il y a eu un grand courage, un grand engagement et aujourd'hui une très grande fierté du journal Le Figaro de cette investigation qui a abouti à l'éclatement d'un très très grand scandale sanitaire.
Alors justement, ce scandale éclate en 2010 lorsque justement Anne Jouan écrit son article en publiant ce chiffre du nombre de morts.
Alors, elle publie, mi-octobre, une première fourchette d'estimation qui était tirée d'un certain nombre de sources, dont celle de la Caisse d'assurance maladie. Mais elle n'avait pas encore les papiers, le rapport n'était pas officiel, et donc il y avait un certain risque, mais elle était sûre, elle avait croisé un certain nombre de sources, et effectivement, d'emblée, Servier, la Caisse d'assurance maladie, la SAPS, ont tout démenti, ouais. Et on est resté comme ça en suspension.
Suivi par pas mal de confrères journalistes d'ailleurs,
oui,
hein,
oui,
qui reprenaient les communiqués officiels.
Les communiqués, qui débranchaient, moi j'avais des rendez-vous à l'antenne qui étaient décommandés au ouais. dernier moment, je citerai aucune radio, mais c'était, ouais. c'était chaud. Et puis, là encore, Anne Jour n'a rien lâché, Gérard Bapt non plus, et finalement, l'AFSAPS a été très vite acculé ouais. à communiquer sur ce chiffrage de mort, voilà. Et là, c'était le 16 novembre voilà. 2010,
là,
l'affaire éclate.
C'est, voilà, c'est le bouton nucléaire. Hein.
C'est le bouton nucléaire.
On voit très bien dans le film, d'ailleurs, il y a une dramaturgie terrible
mais
autour de ça.
Mais
ça s'est passé comme ça.
Rien n'est
au moment
exagéré.
Où le chiffre a été révélé.
Oui, ça a été... C'est d'une intensité folle, et par chance, j'arrivais à Paris avec une infirmière qui m'avait aidée tout au long de ses recherches, qui est devenue mon attachée de presse, et on a écumé les médias. C'est vrai que ça a été un raz-de-marée, et ça a complètement submergé la communication de Servier, heureusement. Et puis, ça a été aussi, alors ça on le voit pas dans le film, le premier contact avec Xavier Bertrand, qui s'est engagé aussi résolument du côté des
ministre
victimes.
De la Santé. Alors, pourquoi, alors qu'en 97, la revue Prescrire avait déjà critiqué l'efficacité du médicament, s'était interrogé sur les risques cardiovasculaires. Pourquoi cette revue sérieuse n'a pas été entendue ? Et pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre aussi longtemps ?
Elle est peu entendue parce que... Enfin, elle est entendue, mais comme des poils à gratter, essentiellement, et souvent reçue comme ça dans le sérail médical, parce qu'elle est très intransigeante, et c'est difficilement acceptable dans un milieu où, en effet, la parole des laboratoires est beaucoup plus valorisée.
Ouais. Il y a un problème au niveau du journalisme de santé ou pas ? Aussi dans les rapports à l'industrie pharmaceutique.
Alors, je connais un petit peu moins bien ce milieu, mais je crois comprendre que comme le milieu médical, la place et l'influence des laboratoires pharmaceutiques est très présente et donc calme probablement les ardeurs. Ce sont des journalistes d'investigation ou qui font tout autre chose comme Anne Jouan au service culture
des généralistes,
qui se sont branchés.
Hein,
à l'exception du magazine de la santé d'ailleurs, ouais. qui a fait le job.
Irène Frachon, la fille de Brest, dans un instant vous répondez au message des auditeurs.
Ça me fait froid dans le dos. Je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain, ce bain de foule, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'y peux rien, c'est physique. Comme un cheval. Le cœur qui cogne dans ma poitrine. Quand dans ce trou noir de monde, je sens tout à coup que je tombe. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'ai plus rien, c'est physique. Comme un choc.
Panique, Junior dans la tête au carré.
Je te bip, tu réponds pas?
Ah non, tu vas biper.
Il n'y a pas une technicienne de dispo, les inclusions sont au point mort. Ce petit cas témoin est en train de nous foutre un bordel monstre.
Bonjour.
J'ai l'autorisation du patron pour cette étude. Je me suis engagé, on y est presque.
Et tu veux être labellisé par l'INSERM? Il y a une équipe. Arrête de jouer au con. Tu crois sérieusement qu'une petite unité comme la nôtre a l'air pour jeter un pavé pareil dans la mare? La guerre aux méchants labos, c'est ça? Tu vas te casser le dos. En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible.
Sauf que dans le cas présent, ce n'est plus du partenariat. C'est de la compromission. Il y a une sacrée différence tout de même.
Elle a raison, Pascal. Si la recherche est pour le service des malades, pourquoi faire ce métier?
Elle a rien à perdre, elle. Toi, tout. Tu vas être ridiculisé, mon vieux. Le jour où on nous aura sucré nos crédits, vous pourrez toujours aller rejoindre les altermondialistes.
Oh.
En attendant, tu te grilles si tu veux, mais tout seul. Et tu réponds quand je te bipe.
Merci pour ton soutien. Très bon échange. Très constructif.
Tu veux la vérité ou mon soutien?
Je suis pas altermondialiste. Moi aussi, je collabore avec des labos, figurez-vous. Et je crois à l'innovation thérapeutique.
Voilà, extrait de la fille de Brest, Irène Frachon, avec toute la difficulté aussi de dénoncer une affaire comme celle-là. Ça fait trembler aussi les bases de votre hôpital à Brest.
Alors, cet échange-là, là encore, la fiction le situe à Brest. En réalité, il se poursuit, cet échange violent, mais plutôt avec un réseau professionnel qui est surtout basé à Paris.
Mmh.
Et donc, je reçois de très vives critiques, même parfois sous la forme de tribunes publiées dans le quotidien du médecin, pour dénoncer cette opprobre que je fais, entre guillemets, alors que je m'en sens pas responsable, peser sur les liens médecin-labo.
Est-ce que justement les partenariats avec les labos sont nécessaires dans le cadre de recherche?
Alors, la recherche thérapeutique, elle se fait beaucoup avec le financement des laboratoires privés, mais pour conserver cette collaboration qui reste indispensable, il faut justement se garder à côté de cela de tout ce qui va biaiser, influencer et au total mettre en péril la validité de ces études. Donc je pense que chacun a sa place, c'est aussi une bonne façon de préserver la qualité des études et une innovation thérapeutique dans l'intérêt des patients.
Alors cette question de Pascal, est-ce que vous avez eu des attaques de la part de Servier par rapport au film? Comment ils ont réagi, vous savez, ou pas?
Aucune nouvelle des laboratoires Servier. J'ai juste vu un vague commentaire d'une des personnes qui est chargée de l'indemnisation des victimes et donc qui, comme vous le savez, s'en occupe très mal et qui a juste pris les petits éléments de langage habituels de Servier. On n'a pas le droit à la parole. Bon,
d'accord.
C'est partial et voilà.
Il ne vous attaque jamais parce que vous avez des propos mais ultra violents.
Ils ont attaqué mon livre et ils se le sont quand même pris en retour de bâton assez sévère.
Et ça les a calmés à tout jamais?
Le problème, c'est que je les traite de gangsters, mais j'ai les preuves. Donc, un procès en diffamation se terminerait forcément sur une discussion sur le fond. Et c'est le fond qu'ils évitent à tout prix en reculant, par exemple, l'échéance d'un procès pénal.
Procès
donc, on retombe sur le fond.
Ouais, procès
sur ce que je dis.
Qui est annoncé pour quand maintenant?
Qui n'est pas annoncé.
Il y a rien, pas de procès.
Pour l'instant, rien. L'instruction est close. Mais en fait, Servier fait feu de tout bois pour reculer ses échéances en contestant. Et donc, peut-être en 2018, en 2019,
ça,
qui
on...
sait? Mais il va y avoir des mises en examen qui vont décéder et des victimes surtout, qui n'auront pas vu la justice.
Marie leur demande comment garder confiance dans les laboratoires pharmaceutiques et ne pas tomber dans les théories complotistes et encourager les porteurs de messages tous pourris.
Bien sûr, et c'est ça qu'on me reproche.
Mmh.
Je ne suis pas... Alors, il faut d'abord distinguer ce qui est de l'affaire Servier, qui est un laboratoire très particulier, des problèmes de conflit d'intérêts en général. Et en fait, moi, ce que je dis, je n'en veux pas à l'industrie pharmaceutique. Servier, je vous dis, est à part.
Mmh.
L'industrie pharmaceutique, ce sont des commerçants et ils doivent être rentables et c'est ça leur préoccupation et ils n'ont pas forcément l'intention d'être rentables en vendant des poisons. C'est pas du tout ça. Au contraire, un bon produit, ça marche mieux. Mais là où il y a un problème, à mon avis, c'est du côté de la communauté médicale qui est beaucoup trop poreuse aux stratégies d'influence et de marketing. Et c'est cette communauté médicale qu'il faut interpeller et que le citoyen doit interpeller. Par exemple, en allant maintenant voir sur le portail transparence.gouv.santé, vous pouvez savoir les liens, les avantages, le nombre de petites bouffes que les uns et les autres partagent avec l'industrie et qui sont des moments d'influence très importants.
Patrice demande, comment expliquez-vous que de nombreux médicaments puissent recevoir justement l'aval des autorités et soient reconnus inutiles plus tard? On n'est pas à l'abri de nouveaux scandales de toute façon.
On n'est pas à l'abri de nouveaux scandales, mais je suis d'accord avec les auditeurs, il ne faut pas faire d'amalgame. C'est-à-dire que quelquefois, l'affaire hors norme du médiator, je vous rappelle que le médiator n'était même pas un médicament, c'était une amphétamine hautement toxique, et que même sur ces indications soi-disant bénéfiques, il y a eu tromperie. Donc on est dans une affaire hors norme, d'un produit sans intérêt et en réalité un poison chimiquement pur. Les autres médicaments, c'est autre chose. On est dans la discussion toujours du rapport entre les bénéfices et les risques. Un médicament, c'est une substance chimique qui, bien évidemment, ne fait pas des frappes chirurgicales. Ça agit et on doit doser et réévaluer à chaque fois si les bénéfices sont toujours plus intéressants que les risques. Par exemple, récemment, la Haute Autorité de Santé remet en cause le rapport bénéfice-risque des anti-Alzheimer.
Absolument, on en a parlé d'ailleurs dans cette émission. Dans quoi vous mettiez votre énergie avant cette affaire du médiator, Irène Frachon ?
La passion pour mon métier et puis beaucoup plus de temps partagé avec ma famille.
Ouais. Et ça vous manque. Ça vous manque beaucoup.
La musique, plein de choses me manquent.
Ça a vampirisé votre vie, cette affaire.
Oui, j'ai été cannibalisée, mais je le suis parce que encore aujourd'hui, le laboratoire Servier se comporte de façon odieuse vis-à-vis des victimes. Moi, j'ai cru que le job était fait au moment où tout éclate, ce qu'on voit à l'écran. Et en fait, il y a une très belle image dans ce film où on voit l'actrice qui tourne dans un espèce de portillon et qui ne trouve plus la sortie. En réalité, je suis rentrée dans la lessiveuse, je n'en suis pas servie. À cause du comportement du laboratoire Servier. Ils ne m'entendraient plus depuis longtemps s'ils avaient indemnisé leurs victimes correctement.
C'est La fille de Brest, film d'Emmanuel Berco, et c'est un film France Inter qui sort demain sur les écrans. Merci infiniment, Irène Frachon, d'être venue.
Merci Mathieu. Depuis des années, nous en parlons ensemble de ce drame.
À bientôt, merci.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Et Pierre nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un braqueur de banque.
Oui Mathieu, de monsieur MacArthur Wheeler qui un jour de 95 dévalisa deux banques de Pittsburgh à visage découvert, même pas peur. Le soir même, peu de temps après la diffusion au JT des images prises par les caméras de surveillance, l'homme fut logiquement dénoncé et arrêté. Quand la police lui montra les enregistrements, Wheeler fut frappé de stupéfaction. Il marmonna « Pourtant je portais du jus ». Apparemment, il s'était persuadé que le jus de citron, bien pratique pour fabriquer de l'encre invisible, allait aussi rendre son visage indétectable par la vidéosurveillance et il avait cru malin de s'en barbouiller la trogne. Alors si je vous parle de ce brave garçon, c'est parce que deux psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger, ont évoqué sa mésaventure en préambule d'une étude qu'ils ont publiée en 99, étude dans laquelle ils souhaitaient comprendre pourquoi les personnes incompétentes, comme ce maladroit détrousseur de banque, peuvent avoir l'impression que leurs mauvaises décisions sont excellentes.
Parce que ces personnes sont un petit peu idiotes, non ?
En fait, non, la réponse n'est pas à chercher du côté du QI. Rappelez-vous, avant d'atteindre son seuil d'incompétence, votre chef n'était pas un crétin. Alors, en fait, ces deux chercheurs ont émis l'hypothèse que chez les incompétents, il existe un biais psychologique qui les pousse à surestimer leurs capacités et leurs performances. Pour mettre cette idée à l'épreuve, ils ont élaboré une batterie d'expériences destinée à tester des cobayes dans des domaines nécessitant un minimum de savoir et de finesse, l'humour, avec des blagues notées par des comédiens professionnels, le raisonnement logique et la grammaire. À chaque fois, les participants devaient faire un exercice et auto-évaluer leurs prestations.
Alors, ça a donné quoi, Pierre ?
Et dans tous les domaines, les sujets les moins aptes ont systématiquement surestimé leur tendance à réussir l'épreuve. À l'inverse, les plus doués des participants avaient un peu tendance à se dévaluer. Plusieurs semaines après le test de grammaire, les meilleurs participants, mais aussi les plus nuls, ont été invités à une seconde session, une session de rattrapage, au cours de laquelle ils devaient corriger les copies de 5 autres personnes et se réévaluer après avoir vu les réponses des autres. Et il advint ce qui devait arriver. Les bons s'aperçurent qu'en fait, ils étaient meilleurs qu'ils le croyaient. Mais les autres furent incapables de reconnaître la compétence des autres et de se remettre en question. Si on les écoutait, tout allait très bien pour eux. Content, content, content. Alors, depuis cette étude, cette surconfiance des incompétents porte le nom de son découvreur, l'effet Dunning-Kruger. Et ces deux chercheurs américains ont désormais, en la personne de leur nouveau président, un sujet idéal pour tester leur théorie.
Et on retrouve cette chronique dans le supplément Sciences et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au supplément, Pierre ?
Alors dans le grand dossier, nous nous demandons où en est l'optogénétique, cette technologie qui associe l'optique à la génétique et devait révolutionner la biologie du cerveau.
Eh bien écoutez, on lira ça cet après-midi dans les pages du Monde. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidal.
Affaires sensibles, quel est le sujet ?
Ah oh, un sujet brûlant qui remonte à...